le don d'organes. Je ne comprends pas qu'on soit encore à signer des petites cartes en arrière, puis que notre famille ait le droit de décider à notre place ce qui va arriver. Tu sais que le don d'organes, là, si tu rentres à l'hôpital, mettons que t'es en... Tu te pètes la fiole avec
la motocross d'Alexis.
Ben oui.
Parce que t'as mis du sirop d'érable dans le réservoir, bien
non,
sûr.
Non, le sirop d'érable empêche de démarrer. Ben
oui. S'il n'y a pas de sirop, là, c'est très sécuritaire.
Bon. Mettons que tu te pètes la fiole, t'es décompté, t'es en arrêt cérébral, etc. Puis toi, t'as signé ta carte de don d'organes. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est là puis qui dit « Oh non, elle est tellement belle, défaite-la pas », capote. On ne prendra pas tes organes,
ouais.
Même s'ils peuvent
pas.
Être utiles.
Ouais, on respecte pas.
C'est fait comme ça actuellement, puis moi, ça me scandalise, et je pense qu'il faut absolument, absolument, que dans les familles, on parle de ça. On parle de don d'organes. Sauf qu'il y a une espèce de tabou, souvent. On dit, on va parler de la mort, puis ça va attirer le malheur. Puis si bien qu'il y a du non-dit, souvent. Aujourd'hui, il y a un événement qui vise précisément à sensibiliser les gens aux dons d'organes. Ça s'appelle le défi chaîne de vie. Marie-Ève Saint-Pierre est coordonnatrice du défi dans la région de Québec. Bonjour Marie-Ève. Allô? Bonjour. Ah, OK, là je vous entends.
Oui, vous m'entendez, d'accord.
OK. Marie-Ève, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous impliquer dans la sensibilisation aux dons d'organes?
Ah ben c'est que il y a de ça presque 7 ans maintenant, on a eu un petit bébé, puis ce petit bébé là est né avec une surprise de la nature, est né avec une malformation cardiaque. Et on a essayé à deux reprises de réparer son cœur, puis après deux tentatives, on nous a dit que c'était plus possible, puis que sa seule chance était la greffe. Alors à ce moment-là, on était un peu, on n'y croyait pas vraiment parce qu'on pensait pas premièrement que ça pouvait se faire chez des enfants aussi petits. Elle avait 2 mois à ce moment-là. Puis
il faut trouver un cœur. C'est parce que rien
oui,
que
il faut
qu'il y ait un bébé qui meure quelque part pour lui trouver un cœur.
Il faut qu'il y ait un bébé qui meure. Il faut que ce soit la bonne taille parce qu'à cet âge-là, c'est ce qui est le plus important, la taille du cœur. On peut pas mettre un cœur adulte évidemment dans une petite cage thoracique comme ça. Donc oui, c'était une aventure, mais contre toute attente, ça s'est réalisé. On a attendu 1 mois pour un nouveau cœur, 30 jours, et c'est arrivé. Donc, depuis ce temps-là, elle vit en parfaite santé. Et nous, on est, pour toujours, on sera redevables à ces gens-là qui ont dit oui, finalement.
Est-ce que vous les avez rencontrés, les gens qui ont dit oui?
Non, le système fait que c'est pas... il privilégie pas la rencontre entre les deux parties, si vous voulez. La famille du donneur peut faire les premiers pas.
OK. Mais
nous, on peut pas. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit une lettre à chaque année. On doit passer par... nous, on était à Toronto à ce moment-là, donc c'est Trillium, mais au Québec, c'est Transplant Québec. Donc, on passe par eux. Puis, c'est eux qui remettent la lettre. Donc, il n'y a aucun contact entre nous. Puis, c'est vraiment la famille du donneur qui prend la décision de prendre contact. Non.
Sauf que, avec ce que vous envoyez chaque année, ils savent que leur décision a été utile à quelqu'un.
Ah, ben nous, on espère que dans notre lettre, on met ça comme fille, évidemment, mais elle est tellement en forme, pleine de vie. Est-ce que ça a l'effet contraire sur eux? On se pose toujours la question, est-ce que ça les rend davantage triste, et c'est pour cette raison-là qu'ils nous contactent pas, on sait pas. Mais on espère que ça les aide un peu. Pour parler à d'autres familles qui, eux, ont donné, souvent, ça met un baume sur leur perte.
Ouais, je me rappelle avoir parlé comme ça à des grands-parents du Saguenay. La famille avait été tuée par un ivrogne au volant dans un rang. Et il y avait un petit garçon de 5 ans. Les grands-parents avaient autorisé le don d'organes. Ça avait sauvé, en fait, pas sauvé 5 vies, mais il avait sauvé au moins une vie, puis aidé 4 autres personnes.
Et une vie, ça compte.
Et pour eux autres, là, c'était comme rendre utile l'absurde.
Exact. C'est souvent ce que les familles de donneurs nous disent.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour sensibiliser les gens?
Donc aujourd'hui, on a notre levée de fonds annuelle pour le projet Chaîne de vie. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, ça s'appelle le défi Chaîne de vie. Le projet Chaîne de vie, c'est une unité pédagogique qui est destinée aux élèves de 4e et 5e secondaire dans le cadre de leur cours d'anglais parce qu'ils fonctionnent par thématique. L'unité porte sur le don d'organes et la santé. On passe à travers toutes les étapes du pré-don, post-don, on démystifie toutes sortes de mythes. Il y a des jeux à travers ça également. On encourage les jeunes, on les incite à, on veut pas les convaincre, mais on veut qu'ils retournent à la maison puis qu'ils parlent du don d'organes avec leur famille en regard des nouvelles informations qu'ils ont reçues dans leur cours d'anglais. Puis qui est la discussion, parce que vous le mentionnez en début d'émission. La signature de la carte est pas suffisante. Puis souvent les gens se disent mais comment ça se fait, j'ai signé ma carte. Mais si on se met dans la peau du médecin qui a devant lui une famille complètement dévastée parce qu'elle vient d'apprendre soudainement que leur proche va décéder, il faut qu'il dise à cette famille-là, désolé, votre proche a signé sa carte. On doit procéder au don d'organes. Donc, éthiquement, ça se fait pas vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens d'en parler pour que s'il arrive un malheur, ça fait pas mourir, mais s'il arrive un malheur, ils sont persuadés d'avoir pris la bonne décision.
Il faut dans le fond que la discussion soit faite avant pour que ce soit même pas une question qui se pose.
Exactement.
Quand arrive le moment, si jamais
Exactement,
il devait arriver.
Parce que souvent, les gens vont dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils voulaient? On évite les déchirements qui sont pas nécessaires à ce moment-là parce que c'est déjà un drame.
Ouais, il y a toutes sortes. Moi, ça fait longtemps que je plaide pour que le don d'organes soit autorisé de façon automatique et que les gens qui n'en veulent vraiment pas, eux, s'inscrivent sur des listes. Souvent, il y a eu des sondages montrant que 80% des gens souhaitent donner leurs organes et que 20% ne souhaitent pas le faire. Et actuellement, on oblige le 80% à se manifester au lieu d'obliger le 20% à se manifester.
Ouais. Si vous regardez les pays où le don d'organes est présumé, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, en France récemment, en Espagne il y a un peu plus longtemps, c'est pas le don présumé qui a fait que les taux de dons ont augmenté. En Espagne, par exemple, ils ont passé plusieurs années avec ce don présumé là, mais c'est vraiment quand ils se sont mis à faire de l'éducation que leur taux a augmenté. L'Espagne est un champion au niveau au niveau du don d'organes. Donc le don présumé a pas un si grand impact. C'est vraiment l'éducation de la population qui va changer les choses.
Sauf que le don présumé fait en sorte que dans les hôpitaux, on forme les gens à parler aux familles.
Oui, mais c'est pas nécessairement le don présumé qui rend ça accessible. Okay. Présentement, Transplant Québec travaille là-dessus. Il y a encore un bout de chemin à faire, mais Transplant Québec le fait. C'est vraiment de parler aux familles. C'est l'éducation qui va... Parce qu'on se retrouve avec... Le médecin se retrouve avec le même problème éthique. Même si le don est présumé, peut-être que les gens, quand cette loi-là a passé, ils étaient pas présents ou ils étaient pas réceptifs. Et le problème se pose quand même quand il y a un événement malheureux qui arrive.
Ouais, c'est sûr que la clé, c'est d'abord et avant tout l'éducation. Puis le don présumé pourra toujours arriver après, quand l'éducation sera faite.
Il faudrait qu'il y ait une... Il faut que ça aille de pair. L'éducation doit être présente.
Pascal?
On nous demande, puis c'est une question qui est un peu difficile à poser, mais vous allez comprendre pourquoi je la pose. On nous demande si le don d'organes, ça va pas mettre un frein aux recherches là, pour une autre solution aussi, pour compléter le besoin de sauver des vies, soit les prothèses, les organes cultivés en laboratoire. Est-ce que vous pensez que de seulement parler du don d'organes quand on veut parler de cette problématique-là, c'est pas oublier aussi les autres solutions?
Non, en fait, il y aura... Nous, on travaille sur le 30 à 40% des gens qui refusent le don d'organes. Donc, on veut qu'il y ait plus d'organes, mais malgré ça, il y en aura jamais assez pour combler tous les besoins en organes. Puis, les recherches se continuent. En fait, on espère ça aussi parce que le cœur que notre fille a reçu, il y a il y a un peu une date de péremption dessus. On sait pas quand ça va arriver, mais probablement que dans le futur, elle va avoir besoin d'un nouveau cœur. Oui, la recherche est très importante. Il y a des recherches sur les cellules souches qui ont cours, mais ça, c'est des recherches de haute voltige. Ça va prendre encore 10 ou 15 ans avant que ça puisse être viable, en fait.
Actuellement, quelqu'un qui attend un nouveau cœur, il attend combien de temps?
Ça dépend de ce qu'il a besoin, ça dépend de son groupe sanguin, ça dépend de son état de santé aussi, parce qu'il y a un ordre de priorité. Donc, il y en a qui attendent un an, deux ans. C'est vraiment variable, oui.
J'ai déjà parlé à un participant au Grand Défi, Pierre Lavoie, qui, lui, a eu un cœur alors que je pense qu'il restait 17 % d'activité cardiaque. Ouais. Puis, un an et demi plus tard, il enfourchait son vélo puis il faisait 200 kilomètres.
C'est extraordinaire comment ça peut changer une vie. Puis les gens, les familles qui ont reçu, nous, on en est une, mais c'est la même chose si on parle à d'autres familles. Quand la vie redevient possible, il y a plus de limites à ce qu'on peut accomplir. C'est vraiment le plus beau cadeau du monde.
Marie-Ève, aujourd'hui, vous serez au relais, c'est ça?
On est au relais. On prend les inscriptions jusqu'à 9h, autour de 9h30. Vous pouvez aller vous inscrire sur défi.chainedevie.org ou simplement venir nous rejoindre au relais. On accueille toutes sortes de gens. À partir de 10h, on fait la montée tous ensemble. La montagne, c'est une analogie pour les temps difficiles quand on attend une greffe. Il y a plusieurs montagnes figuratives à monter. Donc aujourd'hui, on en monte une petite, mais on la fait très significative. Puis on fait ça tous ensemble pour amasser des fonds pour l'unité pédagogique Chaîne de vie.
Excellent. Donc c'est au relais du lac Beauport que ça se passe et c'est à 9h30 ce matin que la montée commence tranquillement.
La montée
et les frais d'inscription servent essentiellement à sensibiliser les gens.
Exactement.
Merci beaucoup, Marie-Ève.
Merci à vous.
Au revoir. Marie-Ève Saint-Pierre est la coordonnatrice du Défi dans la région. Moi, c'est un sujet, là, je sais pas comment le dire pour être sûr que tous les morceaux de mon corps vont servir s'il en reste. Il va en rester de moins en moins valide, là,
On sortira des archives.
Ben oui, mais t'as pas le temps, là. Puis il faut pas qu'il y en ait un. Ce qu'on m'a dit, c'est que dans les hôpitaux, là, s'il y en a un dans la famille qui a l'air à choquer, pouf!
Ouais. Ça arrête. Ah ouais.
Oui, parce qu'ils veulent pas se faire poursuivre, parce que vous avez pris son cœur, puis il y avait pas le temps, etc. Ils veulent pas non plus avoir l'air de vautour. Mais pour moi, la vie est plus importante que n'importe quoi.
La problématique là-dedans, c'est que tu vois pas qui en a besoin. Tu vois pas la détresse, le malheur, la difficulté de vivre de cette personne-là et des gens qui l'entourent, de la personne malade qui attend d'avoir un organe. Parce que ça, c'est émotif. Donc, tout ce qu'on a en tête, si un proche est en train de mourir, c'est ne le déchiquetez pas. C'est juste ça qu'on a en tête. On ne veut pas faire de la charcuterie, de la boucherie avec un corps humain. Mais si on voyait la personne au bout du compte, au bout du corridor qui en avait besoin, et la famille attristée, sachant qu'on peut plus rien faire pour la personne qui nous importe, principalement, je pense que ça changerait bien les visions. Et le fameux débat de dire la carte devrait être signée et si tu n'es pas d'accord avec ton don d'organe, tu devrais faire une action dans le cas contraire, c'est un débat que je comprends pas qu'il soit pas encore gagné.
Moi, je te dis, moi, je suis pour le don présumé. Je veux que, par définition, si je n'ai pas dit clairement « je ne veux pas », on prenne pour acquis que je veux.
Exact.
Puis, je pense que si on avait cette discussion-là dans la société, même si le don présumé n'est pas une panacée pour tout, si on avait cette discussion-là, ça nous amènerait, c'est comme l'aide médicale à mourir, c'est comme plein de dossiers, ça nous amènerait chacun à en discuter dans nos milieux. Ce serait la plus belle sensibilisation qu'on puisse trouver.
Mais c'est ridicule que ça puisse pas être l'inverse.
Ben...
Mais on s'attend juste pas à ça.
J'avais déjà demandé à Véronique Yvon puis à Gaëtan Barrette, seriez-vous prêts à prendre ça? Puis ils m'ont dit peut-être, puis finalement ils n'ont jamais
voulu. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur?
Les motifs des gens. Mais... c'est dangereux en campagne électorale, en politique aussi. Là.
Ils ont un autre problème, c'est que Transplant Québec ne veut pas avoir l'air d'un vautour, donc n'est pas sûr qu'on soit rendu là.
Ouais.
Mais moi, je pense que s'ils veulent déclencher une discussion sociétale importante sur le don d'organes, la façon de le faire, c'est de présenter le projet de don présumé.
Mais en fait, c'est de le rendre humain, ce projet-là. Pas juste de le présenter. C'est de faire comprendre aux gens que non, t'es pas en train de déchiqueter la personne que t'aimes.
Hey, 7h54 déjà.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.